Bien, je suis ravie d'accueillir Claude Braun. On va faire plus ample connaissance avec lui, même si beaucoup le connaissent déjà à Digne et encore plus loin que Digne, dans le département. Claude, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer par, bien sûr, ce sera une émission spéciale poésie, puisque c'est votre hobby, votre passion depuis longtemps, d'écrire de la poésie.
Ah, depuis longtemps, oui. Je crois que j'ai commencé dans les années 1960. Donc, pas mal d'auditeurs ne devaient pas être nés à ce moment-là.
Alors, on va rappeler d'où vous venez, en fait. Vous n'êtes pas originaire de Digne, du département.
Non, je suis né à Évreux, en Normandie. Et si vous voulez encore plus de précision, 7 mois avant le Front populaire. Alors, à vos livres d'histoire.
Bon, ça fait quelle année, alors, dites-moi.
Eh ben, le Front populaire, c'est en juin 1936, donc je suis né en fin novembre 1935, tout simplement.
Et vous êtes arrivé dans le département pour enseigner ?
J'ai été nommé, effectivement, après avoir passé une année en Suède, j'ai été nommé à Digne sans l'avoir demandé. Simplement, j'ai mis dans mes souhaits les régions de montagne, d'ailleurs le Jura, les Alpes, les Pyrénées, et j'ai été envoyé à Digne, que je ne connaissais pas de nom, évidemment.
Donc ça fait quelques années.
Eh bien, j'ai fait la rentrée scolaire 1961.
Et professeur d'histoire-géographie.
J'étais professeur d'histoire-géographie, d'abord au lycée Gassendi, qui était un lycée où il y avait une quarantaine de professeurs, pas plus. Et puis en 69, je suis passé au lycée Davidel.
Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'histoire et la poésie ? Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce que vos cours d'histoire ont été différents grâce à la poésie ?
Je ne dirais pas ça. Un inspecteur général m'avait reproché de faire des cours d'histoire trop axés sur la philosophie. Donc l'histoire, c'est en fait une occasion de s'interroger sur l'homme, ce qui le motive. Et la poésie, c'est aussi une interrogation sur l'homme, sur le mystère de la vie.
Donc vous étiez philosophe aussi dans vos cours.
J'ai failli faire une licence de philo, seulement il fallait avoir fait du grec et du latin. Donc ça m'a... J'ai pas pu le faire.
En tout cas, j'imagine que vous avez enseigné avec passion.
Il faut demander aux anciens élèves. Je donnerai une liste.
Est-ce que vous en avez vu défiler donc forcément beaucoup
Il faut compter une moyenne de 120-140 élèves par an.
Oui.
Donc faire le total. Et un jour, j'ai eu un élève qui m'a dit « Ah, monsieur, vous avez vu mon père en classe ?» Ah, il dit « Tiens, tiens, tiens. » Et puis aujourd'hui, je vois d'anciens élèves qui me disent « Ah, ben, je suis retraité. » Alors je me dis encore plus, diable, ça fait bien vieux.
La poésie, vous y êtes venu donc à quel âge ?
J'ai commencé l'année où j'étais en Suède, c'est-à-dire en 1959-60.
Vos premiers écrits ?
Voilà, qui ne valaient rien. Il y a deux cas dans toutes les formes d'art. Ceux qui explosent dès le début, c'est Rimbaud, quelques autres, et puis il y a ceux qui progressent lentement. Donc, des premiers poèmes, je dirais comme ce que m'avait dit François Farvez, le peintre cartonnier de Digne, à propos des premiers tableaux que j'avais exposés à Digne, beau de sincérité. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui essayait de s'exprimer, mais la technique n'était pas au niveau.
Et alors, au fil du temps, vous avez affiné votre technique ?
Au fil du temps, au fil des lectures, au fil de la réflexion, oui. Parce que dans toutes les formes d'art, je crois qu'il y a beaucoup de travail. Mais quand c'est abouti, celui qui entend, celui qui lit, ne doit pas s'apercevoir qu'il y a du travail. Il doit dire « Oh, que c'est facile, j'aurais pu le faire aussi ». Tout simplement.
Avant d'aller plus loin dans la poésie, j'aimerais avoir votre définition, s'il y en a une.
Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, je vous en donner trois. La première, c'est Saint-Jean de Perse, quand il est le prix Nobel de littérature en 1960. Il dit, entre autres, poète, et celui-là qui rompt pour nous l'accoutumance. Ça, c'est la première définition. La seconde, j'aime beaucoup, c'est un poète breton, René Guicadou, qui écrit « Prenez un mot et revêtez-le de la matière brûlante de votre âme. »
C'est joli.
Et puis la troisième, le poète se mélange à l'air pour s'affranchir de l'horizon. Et ma figurez-vous que ça l'allait de moi. Ça ne revenait pas.
Hein. Magnifique.
Alors, pour tout compléter, le mot poésie vient d'un mot grec qui veut dire fabriquer, créer. Donc, il ne s'agit pas de créer des vers, mais de fabriquer un autre univers que celui dans lequel on vit. C'est pour ça que la poésie contient une part de rêve qui s'exprime à travers des images, des comparaisons, des rapprochements inattendus des mots.
Alors, la poésie, il y a plusieurs types de poésie. Vous avez exposé il n'y a pas longtemps et ça continue.
C'est fini.
C'est fini, hein, c'est la fini. Médiathèque. Il y avait à la fois de vos poésies, à la fois
des tableaux.
Et vous avez fait des interventions avec
J'ai fait cette exposition à la médiathèque. Le thème, c'était « Hommage à Digne ». Et d'ailleurs, j'étais un peu étonné que tous les candidats aux élections qui mettent l'accent sur la culture, fort peu sont venus, à ma connaissance, voir cet hommage à Digne.
Bon, eh bien, c'est regrettable. Comment se fait-il ?
Mais je n'en fais pas un drame.
Alors, pour revenir à la poésie, vous parlez de poésie libérée.
Oui. À ma connaissance, ou à mon avis, il y a trois types d'écriture. En poésie, l'écriture classique, où il y a un nombre de syllabes réguliers, des rimes, c'est Lamartine, Victor Hugo, avec les alexandrins. Il y a l'écriture entièrement libre, qu'on va trouver dans les psaumes, mais qu'on trouve aussi chez Aloysius Bertrand, chez Claudel, chez Saint-Jean de Perse. Et puis, entre les deux, il y a ce qu'on appelle la poésie libérée, c'est ce que je fais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rime, mais on garde une métrique, un nombre de syllabes réguliers. Et donc, on garde la prononciation de la poésie classique. Alors ça, c'est compliqué. Mais non.
Nous faire de toute façon des démonstrations.
Voilà, dans la poésie classique, le E final d'un mot se prononce quand le mot suivant commence par une consonne. Ça veut dire, on dit « j'aime la maison bleue », 6 syllabes. Mais si ce sont des voyelles ou un H, on fait la liaison, on dit « j'aime une maison heureuse », 6 syllabes. Et l'exemple que je donne toujours, c'est dans le songe d'Athalie de Racine, tout le texte est en alexandrin, donc des vers de 12 syllabes. Et à un moment, Jézabel dit à sa fille, « Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi. » Si je le dis comme ça, on a 8 syllabes, et tout le texte est en 12. Et donc, tous les acteurs qui jouent Racine disent, « Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi. » Le « e » prononce. Voilà l'exemple concret. Et c'est dit dans les sentiers de la poésie à la page 50 pour que celui qui lit retrouve la musique du texte. Parce que la poésie, c'est aussi une forme de musique à travers les mots.
Justement, à propos de musique, bon, il y a suffisamment dans la poésie. Qu'est-ce que vous pensez des poèmes qui sont mis en musique, hein ? Est-ce que ça vous aurait intéressé ?
Ah, moi je suis... Il y a une personne qui... Deux personnes qui en ont mis quelques-uns en musique, entre autres une prof de philo de Nancy. Et quand elle les a chantés et joués à la guitare, j'ai eu l'impression que c'était un nouveau texte que je redécouvrais.
Et c'était intéressant ?
Ah oui,
oui.
C'était bouleversant. Parce qu'il s'agit d'une recréation. Elle avait pris un ou deux vers qui servaient de refrain. En plus, elle le disait avec ses tripes et... On était une quarantaine dans la salle. La salle a été subjuguée. Et moi aussi, j'ai redécouvert le texte avec toujours cette réaction qu'on a quand on essaie de créer. C'est qu'on se dit, oh là là, est-ce que je serai encore capable de faire aussi bien? C'est la réaction normale.
Donc, un texte en chanson, est-ce qu'il y en a eu d'autres?
Non, il n'y a que ce cas-là. Il y a une personne de Digne, mais je n'ai pas encore entendu ce qu'elle a écouté, du moins ce qu'elle a fait. Mais c'est le... des gens comme Jean Ferrat ont fait connaître Aragon, et c'est très bien. C'est très très bien. Beaucoup de gens qui écoutent Jean Ferrat ne savent pas que c'est Aragon qui a fait les textes.
Oui, c'est utile pour ça, mais en même temps, une fois qu'on connaît le texte, moi je préfère des textes dits souvent que chantés. Alors c'est le qui tout double, quoi.
Voilà, le problème c'est qu'après, quand on dit le texte, on a tendance à le chantonner, à le dire comme on l'a entendu dans la chanson. Mais il faut bien se dire que les gens qui ont écouté Jean Ferrat, les 9 dixièmes ne lisent pas de poésie, donc c'est une découverte. Donc pour moi, c'est positif.
Vous avez un enregistrement de ce texte chanté par cette femme de Nancy?
J'en ai un, mais je ne l'ai pas amené d'abord. Ouais. Et une qualité moyenne a été enregistrée.
Alors, on a parlé de la poésie libérée. On va, de toute façon, étoffer tout ça dans un instant. Il y a la poésie sur la nature, la poésie des sentiments et la poésie lyrique. Et la poésie comme réflexion sur la vie. Voilà. C'est les 4 types de poésie
Vous en avez dit que 3, il y a un problème. Ouais. Le premier, c'est la poésie
comme un jeu. Voilà le jeu. Alors justement, qu'est-ce que...
La poésie comme un jeu, c'est quand on a envie soi-même de s'amuser, qu'on voit quelque chose qui fait sourire, ou bien qu'on voit qu'on veut un petit peu se moquer des gens qui se prennent trop au sérieux. C'est comme ça que pas mal d'élèves d'école primaire à Digne apprennent le poème, la leçon de géographie. Ça leur permet d'apprendre à la fois ce que c'est qu'un parallèle et un méridien, et puis en même temps de la poésie.
Donc ça, vous aimez jouer avec les mots aussi?
Oui, oui. Mais ce n'est pas pour moi la finalité de la poésie.
Voilà, pour vous la finalité, c'est d'amener à la réflexion.
Voilà. Voilà, réflexion sur la vie, sur l'homme, sur la mort, sur la souffrance, c'est ça la finalité. Ce qui n'empêche que chaque forme, que ce soit le jeu, la poésie lyrique et autres, doit être parfaite. Mais pour moi, elle n'a pas la même importance.
On va faire une petite pause musicale avec Vivaldi. Allez, et on se retrouve bien sûr juste après.
Thank you.
on retrouve notre invité Claude Braun, poète, artiste, peintre aussi. On en parlera aussi. Il y a aussi un lien entre la création de poésie et de peinture. On va revenir à ce premier poème, même s'il n'était pas bon à votre goût. Et qu'est-ce qui vous a déclenché cette envie d'écrire et c'était sur quel sujet?
Alors, on dira même qu'il était mauvais. D'abord, je pense qu'il faut, pour quand on s'intéresse à une discipline artistique, avoir une forme de sensibilité. Un artiste, c'est d'abord un hypersensible. Et c'était en 1959, donc j'étais comme professeur de français en Suède, et j'ai appris un jour dans la salle des professeurs que le fils d'un collègue qui avait 4 ou 5 ans était en train de mourir d'un cancer du cerveau. Et le premier poème a été sur ce thème-là, c'était un cri de révolte. Et quand on demandait, je pense que c'est valable pour toutes les formes d'art, quand on demandait à Courbet comment vous faites d'aussi beaux paysages, il répondait tout simplement, je suis ému. Et pour qu'il y ait création, je pense qu'il faut qu'il y ait une émotion.
Et donc, premier poème, même s'il n'a pas été... Est-ce que vous avez eu envie de le retravailler plus tard?
Non, je crois que je l'ai encore quelque part. Il faudrait que je recherche. Je pense ne pas l'avoir jeté, mais le retravailler, pour l'instant, je n'ai pas eu envie, non. Non, d'autant que j'ai fait d'autres poèmes qui évoquent le même thème, qui sont en particulier le poème à Katia Bengala. Qui, eux, sont aboutis. Du moins, c'est ce que je pense actuellement.
Vous le lirez tout à l'heure.
Ouais.
Pour l'instant, on va continuer dans ce désir de création. Donc, on comprend bien que l'émotion est primordiale. Si on n'est pas touché dans ses entrailles, on ne peut pas écrire quelque chose qui touche aussi.
Voilà, c'est exactement ça.
Si on n'est pas soi-même touché.
Exactement ça.
Vous êtes très proche de la nature, de l'humain. On vous voit, moi je vous vois en tout cas souvent, vous étiez très souvent à bicyclette, maintenant vous êtes souvent à pied, vous marchez beaucoup.
Oui.
C'est important ce lien avec la nature.
Ah, je pense que à Digne, si on n'aime pas la nature, on s'en va. Quand je suis arrivé à Digne, je me souviens à Gassendi, il y avait deux catégories de professeurs. Ceux qui rêvait d'aller à Aix-en-Provence parce que plus la ville est grande, plus le prof est grand. Et puis il y a ceux qui, le lundi matin, parlaient montagne, pêche, balade. Et c'est près de cela que je suis devenu ami. Donc on a la chance de vivre encore dans une région où on peut réfléchir, regarder le monde, s'interroger. Et je connais un collègue allemand, par exemple, qui vient régulièrement à Digne, et qui dit, ah ben là, au moins, on peut marcher une journée sans voir personne et être seul face à face avec la nature. Et ça, c'est un privilège de Digne que j'espère qu'on saura garder.
Et en même temps, vous aimez être proche des autres, hein, de l'humain. On a besoin de solitude pour créer, mais vous avez besoin aussi de rencontres.
Aristote l'avait dit, hein, l'homme est un animal sociable. Oui, il faut des rencontres aussi, bien sûr. D'autant que quand on crée, c'est pas seulement pour soi, c'est qu'on a, on croit, on a peut-être l'illusion que ce que l'on écrit peut parler à d'autres, peut être partagé. Et créer en matière artistique, c'est aussi une forme de dialogue et de partage.
Quand est-ce que vous avez publié votre premier recueil? Donc il y en a beaucoup. Mais...
Le premier, qui n'était pas bon, ça remonte à, je ne sais plus, 30 ou 35 ans à peu près. Et c'était grâce à l'amitié de Bernard Vial, qui était imprimeur, et de Noël Durand, qui avait fait les illustrations. Et de ce recueil, je dirais aussi ce qu'on m'avait dit de ma première exposition de peinture, beau, de sincérité. Le reste, je n'en dis rien.
Donc un premier recueil publié. Avant d'avoir publié, est-ce que ces poèmes dormaient dans un tiroir, ou est-ce que vous les faisiez partager autour de vous?
Non, quand on écrit, on pense à l'écriture, au poème. Puis un jour, on a beaucoup de textes, on les regarde, et parfois on se dit, tiens, mais il y a un fil conducteur, ça pourrait faire un ensemble homogène, un ensemble qui se tient, qui a une cohérence. Pour l'instant, actuellement, par exemple, j'ai un stock de poèmes écrits après la parution du dernier livre, mais je n'en vois pas un fil conducteur qui permettrait de faire un ensemble cohérent. Mmh. Peut-être que ça viendra.
Alors le premier livre, premier recueil de poésie qui n'est pas bon, il faut vraiment le dire, si jamais quelqu'un voulait se le procurer, on peut les retrouver
non.
tous,
non? Non, non.
Ah, d'accord.
Non, j'ai même demandé à la médiathèque de l'enlever.
Ah oui, c'est vraiment pas une fierté.
Oui, oui. Ouais.
Et le deuxième, alors, ça a été quand?
Alors après, ça a été, il y a très longtemps, ça s'appelait Pays d'Inois, qui a été repris dans un recueil plus récent, qui s'appelle Pays d'Inois, Terre de Poésie, que vous pouvez voir à la médiathèque, ou si vous ne voulez pas aller à la médiathèque, vous allez à la chapelle du Cousson, il est dedans.
D'accord.
Donc vous pouvez lire ses poèmes dans la nature.
Oui, la chapelle du Cousson. Et j'avais vu de vos écrits.
Okay. Voilà,
d'accord.
Et j'ai eu des anciens élèves qui m'ont mis des mots sympathiques sur le livre.
On va écouter encore un peu de musique pour continuer cette aventure avec vous, Claude Braun. Merci d'être venu. Et on parlera bien sûr aussi, il y aura des lectures de poèmes.
Ouais.
On parlera des différents livres que vous avez écrits et puis aussi de peinture.
À votre disposition.
D'accord. Allez, à tout de suite. On retrouve Claude Braun, notre poète et artiste peintre, avec qui on a commencé l'émission il y a une petite demi-heure. Claude Braun, on va continuer à parler de la poésie et notamment des poètes de Digne, dont on ne connaît pas forcément.
Alors, à Digne, il y a trois rues qui portent le nom de poète. Tout le monde connaît le boulevard Victor Hugo, donc on passe. Le second, c'est une petite rue le long du collège Gassendi, la rue Cécile Sauvage, la mère d'Olivier Messiaens, qui a écrit de très beaux poèmes, très troublants, en particulier sur son fils, un poème qui s'appelle « La tête », où elle imagine, elle a le bébé dans les bras, elle le voit, mais elle imagine aussi qu'un jour, il mourra, il sera sous forme de cadavre, et elle voit sa tête se transformer, passer de la tête de bébé à la tête de cadavre. Donc une forme d'anxiété, c'est un poème très troublant. Et puis la troisième rue portant le nom d'un poète, c'est la rue Antoine Hérouet, sur la plaque qui a écrit « Évêque de Digne ». Et très peu de gens savent que Antoine Hérouet, avant d'être évêque de Digne, était un ami de Clément Marot, donc première moitié du XVIe siècle, et qu'il a écrit, entre autres, le texte de c'est « Complainte d'une dame surprise nouvellement d'amour ».
Complainte d'une dame surprise nouvellement d'amour.
Et les Parisiens, qui avaient le jeu de mots facile, l'avaient surnommé le digne évêque de Digne. C'est un peu facile. C'est une poésie qui est très datée, hein. Ça date du début 16e, donc personne ne la lit.
Mais vous allez nous en lire.
Alors, je vous lis juste la fin d'un texte d'Antoine Hérouet. Donc, là, cette complainte amoureuse. « Si je n'avais que l'amour à combattre, toute raison d'un amour à débattre, le mal d'autrui me rendrait assez forte. Mais j'ai affaire à moi-même. De sorte que la raison, par volonté confuse, me fait vouloir de ce que je refuse. Je ne dis pourtant pas que je y consente. Il reviendra, j'en serai très contente. Et s'il advient que jamais je le tienne autant à moi que je me connais sienne, je lui ferai, si mieux ne puis entendre, le bonheur de revoir et le malheur d'attendre. » Ça fait très à la fois période cicéronienne et puis un petit peu Alfred de Musset, le bonheur de revoir et le malheur d'attendre. Voilà la belle opposition. Mais pour le reste, il était évêque et même ordonné.
Alors voilà pour un poète, Antoine Hérouet et Cécile Sauvage, dont on voit bien la maison...
près du rond-point de la gare.
Voilà.
Et qui est la mère d'Olivier Messiaens, le musicien.
Olivier Messiaens, qui a donné son nom au conservatoire.
Voilà.
Voilà. Et alors, Cécile Sauvage, est-ce que vous auriez quelque chose à nous lire de Cécile Sauvage?
Alors, le poème La Tête, donc, il faut imaginer Cécile Sauvage avec le petit Olivier dans les bras. Je vous lis quelques phrases seulement. « Ô mon fils, je tiendrai ta tête dans ma main, je dirai, j'ai pétri ce petit monde humain. Sous ce front dont la courbe est une aurore étroite, j'ai logé l'univers rajeuni qui miroite et qui lave d'azur des chagrins pluvieux. Ô mon fils, je tiendrai ta tête dans ma main et songeant que le jour monde brille et s'éteint, je verrai sous tes chairs soyeuses et vermeilles couvertes d'un pétale à tromper les abeilles, je verrai s'enfoncer les orbites en creux, l'ossature du nez offrir ses trous ombreux, les dents rire sur la mâchoire dévastée, et ta tête de mort, c'est moi qui l'ai sculptée. Voilà, un poème que je trouve très troublant. Cécile Sauvage était quelqu'un d'anxieux qui est mort jeune. Peut-être un peu morbide, mais extrêmement sensible. Et en plus, elle a dit de très belles choses sur le Cousson. Donc,
le Cousson, donc oui, voilà, c'est une source d'inspiration. C'est vraiment la montagne de Digne, le Cousson. J'ai envie de voir, on va parler de deux choses très différentes. Le service militaire, juste pour revenir, puisqu'on dit que le service militaire forme un homme. Est-ce que vous, ça vous a apporté quelque chose ou l'envie d'écrire à ce moment-là?
L'envie d'écrire, non. Ce que j'en retiens surtout, c'est une interrogation se demandant comment la démocratie peut fonctionner. Parce que je peux dire que dans le service militaire, dans l'infanterie, aussi bien parmi les appelés que parmi les cadres sous-officiers, la médiocrité était vraiment effrayante.
Et ça ne donne pas envie d'écrire, la médiocrité.
Ça donne envie de se réfugier dans les montagnes.
Oui, d'accord. Et de faire une poésie sur la nature.
Voilà, voilà.
Et alors, la religion, un autre domaine. Quel est votre sentiment par rapport à la religion? Vous parlez d'une forme d'espoir?
Oui, je pense que... Je me rappelle notre prof de philo au lycée qui nous disait « L'homme est un être qui, par nature, se pose des questions que, par nature, il ne peut pas résoudre. » Et quand, grâce à mon chien, je sors le soir un jour d'anticyclone, en hiver, en été, et qu'on voit le ciel tel qu'on a la chance de le voir en Haute-Provence, je ne comprends pas qu'on puisse regarder ça sans s'interroger. S'interroger, ça ne veut pas dire trouver la réponse. Mmh. Et je me sens très proche, par exemple, de gens comme Hubert Reeves, qui a une forme de, religiosité face à au mystère de l'univers.
Alors, puisqu'on parle de religion, on va venir à ce qui vous a motivé sur un très beau poème en hommage à une personne qui a été assassinée, une jeune femme dont on retrouve le poème dans trois livres que vous avez écrits.
Parce que je considère que c'est un des poèmes les plus forts que j'ai écrit et qu'en plus, il est extrêmement d'actualité. Il s'agit, et puis parce que la poésie, c'est aussi une forme de mémoire. Camus avait écrit quelque part, face à l'obstination du mal, nous n'avons qu'une réponse, l'obstination du témoignage. Et c'est pour ça que ce poème me semble important. On peut le comparer à l'exposition, j'avais mis en regard un poème qui s'appelle Le voile de Victor Hugo, qui date de 1828, et qui permet de s'interroger sur l'évolution de l'être humain. Alors, Katia Bengana, c'était une lycéenne algéroise qui avait 17 ans, et en février 1994, elle a été assassinée à la sortie du lycée parce qu'elle refusait de porter le voile. C'est une information que j'avais lue dans le journal Le Monde.
Vous faites une lecture. Alors, on va écouter ce poème.
Donc, dédié à Katia Bengana. À la croisée des routes de la vie, là où l'ombre et le soleil dessinent l'horizon des interdits sacrés, elle marchait seule, œil et cheveux trop clairs pour ne pas offenser le fanatisme noir qui lance des appels. À la croisée des routes de poussière, un vent de sel ose sa main dans ses cheveux. Un goéland très haut cherche en vain l'eau du ciel dans son regard de perles claires. Elle est étendue seule, trop libre pour ne pas offenser le fanatisme noir qui lance des appels. On la vit dans la nuit, donnant la main à un cri rauque, et le vent trop salé traversait sa poitrine, et des coquelicots fragiles parlaient de sang, en contemplant son ombre déchirée à la croisée des routes de la mort.
Je propose de faire un lien avec la chanson de Serge Reggiani, Ma liberté.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté, une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.
Serge Reggiani, merveilleux interprète.
Et avant de chanter Le Déserteur, en général, il dit Le Dormeur du Val de Rimbaud, et il le dit de façon, pour moi, on ne peut pas le dire mieux, de façon bouleversante. Mmh.
On l'écoutera dans un instant.
D'accord.
Pour revenir à la religion, vous avez écrit aux sept moines de Tibérine.
Oui.
Tibérine, pardon.
Il y a les deux.
Oui.
Les deux prononciations.
Mmh. Est-ce qu'on peut le lire?
Ah oui, on peut le lire. Je vous signale que un des moines de Tibérine, le plus jeune, frère Christophe, a écrit des poèmes très religieux, mais il dit entre autres une phrase que j'ai trouvée très juste. Il dit « C'est la grâce de la grande poésie de nous faire passer d'une lecture première à la perception des profondeurs, du visible à l'invisible. » Et ça, c'est aussi une bonne définition de la poésie.
Alors, aux sept moines de Tibérine, que vous avez écrit dans le dernier livre.
Ce poème a été écrit, certains ont été écrits avant d'avoir vu le film des dieux et des hommes, et celui-là est écrit après avoir vu deux fois de suite le film. Et dans le film, on voit un moment, les moines, il y a trois séquences où on voit les moines en train de prier, puis on entend le bruit des combats des hélicoptères, trois fois de suite. Le poids de vos prières chemine dans le soir et l'ombre fait surgir un long rêve aux mains jointes. Au-delà du vitrail, le bruit et la fureur, le calme du jardin est à hauteur de l'âme. La marche est sans retour, même la neige oublie, mais le sel des prières aide l'aube à sourire. Prophète d'un éclair, l'épine s'agenouille. Et donc il y a trois ou quatre poèmes sur ce drame qui n'est toujours pas entièrement expliqué malgré les promesses du gouvernement algérien récemment.
Claude Braun, vous écrivez sur, bien sûr, la vie des humains. Vous avez écrit dans votre dernier livre des choses amusantes aussi sur le robot, la puce électronique, l'informatique, avec cette forme, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec les premières lettres qui donnent le mot.
Ça s'appelle un acrostiche.
Hein, alors, il y a le robot, par exemple.
Alors, ça, c'est un jeu. Donc, la première lettre du premier vers, c'est R. La première lettre du deuxième vers, c'est O. Et ça fait robot. Et c'est un exercice que j'avais fait avec une classe de quatrième de Vendeuvre-les-Nancy, où je vais tous les deux ans faire une semaine d'animation poésie. Alors, les enfants, évidemment, devaient faire aussi le même exercice. Alors, on va prendre. Regarde-moi dans les yeux. Objet marchand non identifié. Baigne-toi dans les senteurs d'un bel automne, orgueil de métal et de plastique. Tu ne comprendras jamais le tremblement d'un peuplier ému. Donc le premier vers commence par R, le deuxième par O, etc. Et donc, à travers ce texte, puis quelques autres, vous avez pu remarquer que je n'étais pas un admirateur de l'électronique dans tous les aspects de la vie.
Alors dans ce dernier livre, Dernier sentier, sentier d'adieu, il y a plusieurs chapitres sur la montagne, les lavandes, les robines. J'aime beaucoup cette description de la robine, terre affamée de fleurs.
Alors les robines, c'est évidemment une roche qui m'avait surpris quand je suis arrivé à Digne. Et comme beaucoup de gens, j'avais imaginé que c'était des crassiers d'anciennes mines. Mais si on veut voir les robines correctement, d'abord, on peut se reporter au livre de photos de Pierre Riel, un dinois, qui s'appelle Le Grain des yeux, qu'on trouvera à la médiathèque, qui a su voir dans les robines des formes très belles. Pour bien voir les robines, il faut les voir au soleil rasant, c'est-à-dire soit le matin, soit l'après-midi, s'accroupir dans les robines, et à ce moment-là, on peut découvrir des formes qui font penser soit à un corps humain allongé, soit simplement des courbes très belles. Et si vous voulez voir des belles robines, vous allez à l'automne vers Saint-Pancras, le matin. Donc vous avez un côté de la robine où le givre a fondu, il est noir brillant, un liseré blanc en haut, et l'autre versant qui est blanc. Et on découvre que c'est une roche qui est belle, qui peut donner quelque chose d'émouvant. Alors le poème Robine. Robine, terre affamée de fleurs, sacrifiée à un ciel jaloux, tandis que chante une cigale, nulle moisson ne vient cacher tes formes rondes portant deuil. Midi. Il faut attendre encore le sommeil du soleil et ses rayons obliques. Alors, dans une sensualité ajourée, tu étires lentement ta poitrine. C'est une femme en majesté et nue, la courbe de ton dos effleure l'au-delà. Et le soleil couchant vient y poser sa joue, offrant à cette heure oubliée dans son deuil, dans les grands feux du soir, en haute liberté, une âme somptueuse, fécondée de lumière. Et dans les photos de Pierre Riel, il y a l'impression qu'il y a un nu. Et récemment, à la médiathèque, je suis tombé sur un livre de photos de Lucien Clergue, et je vois des formes. J'ai cru que c'était des robines, et en fait, c'était deux nus allongés sur la plage à contre-jour. Donc ça m'a bien fait le rapprochement entre ces formes qu'il faut savoir découvrir.
Claude Braun, vous avez écrit beaucoup de belles choses. Et quand on revient à l'origine de la vie, vous avez écrit « Étrange ce voyage ». J'aime beaucoup ce texte et qui est donc dans le livre
voilà, « Dernier
donc, sentier d'adieu ».
Ça fait partie des interrogations qu'on dira métaphysiques, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'homme existe, pourquoi est-ce que l'univers existe, qu'est-ce qu'il y avait avant, etc. Étrange ce voyage dont on ne m'a rien dit du port d'embarquement. Quel phare insaisissable a décidé le cap? Quelle écume baignait le rivage antérieur? Je l'ignore. J'ignore quels océans j'ai traversés et quel soleil a éclairé ma route. Mais je connais le quai de l'arrivée, l'inévitable port où rouillent les étraves avant l'oubli. Étrange ce voyage dont l'au-delà du port épuise les secrets. Une errance étoilée aux rives du sacré, si le silence fut maître de navigation, jusqu'à l'oubli. Et là, on peut voir aussi la différence entre la poésie et la prose. Au lieu de dire « de toute façon, on finit tous par mourir », j'ai écrit « mais je connais le quai de l'arrivée, l'inévitable port où rouillent les étraves ». C'est la différence entre la prose et la poésie. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, le mot poésie vient d'un mot grec qui veut dire créer, fabriquer, sous-entendu un autre univers que celui dans lequel on vit quotidiennement.
Pour en revenir à vous avez parlé tout à l'heure d'animation. Vous faites de l'animation en poésie avec les enfants.
Oui, j'ai eu la chance. Alors, l'été, je fais des sorties poésie, c'est-à-dire de la poésie dans la nature, avec l'Office du tourisme. Et j'ai eu la chance de rencontrer deux curistes. Lui est maire adjoint à Vendôvre-les-Nancy, et elle est très impliquée dans la vie associative. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire une semaine d'animation. Donc, tous les deux ans, je vais à Vendôvre-les-Nancy et dans des maisons de retraite, parfois à l'hôpital. À l'hôpital Spielmann, qui est spécialisé pour les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, dans des collèges, des clubs de lecture, etc. Et il y a un poème qui s'appelle « Déboisé ». Alors, il faut que je recherche ce poème parce qu'il est un petit peu le résultat de cette rencontre à Vendôvre-les-Nancy. Il est « La banalité du mal », je crois que c'est ça. Voilà. Alors, quand j'étais à Vendôvre, je suis allé à l'hôpital pour enfants malades à Vendôvre-les-Nancy. Et l'animatrice avait filmé les enfants en leur faisant faire un concours de grimaces. Et j'ai été marqué par un enfant qui avait un cancer, qui était complètement chauve, et qui même, il avait entre 9 et 10 ans, même quand on lui demandait de faire ce grimace, avait un air triste, le sentiment que tout ça, c'était inutile. Et en rentrant de Nancy, au bord de la route, entre Nancy et Épinal, je me suis arrêté, j'avais commencé à écrire ce poème qui, parce que j'avais en moi cette image, le visage de cet enfant. Il s'appelle L'Enfant. Et il est dans le livre « Dernier sentier, sentier d'adieu ». Déboisé, dénudé par une tempête intérieure, tu souris au miroir, mensonge au doux reflet, mais peut-être sais-tu déjà la sécheresse de ton arbre, désespérance de la graine au fond de tes grands yeux. Mon enfant sans cheveux, pauvre prairie fauchée trop tôt, je t'offre un peu de ciel, puisque l'azur t'a oublié. Et ça, alors, je le mettrai en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, le premier poème que j'ai écrit sur un enfant qui mourait d'un cancer du cerveau. Mmh. Une sorte de permanence dans les thèmes traités. Si les premiers poèmes ne valaient rien, les thèmes étaient déjà ceux qui sont dans les livres actuels.
Donc, c'est important, ce travail que vous faites d'animation, par exemple cet après-midi, vous allez à la reine Béatrix. Qu'est-ce que vous faites
Alors, je vais voir les mamies de la reine Béatrix, parce qu'il y a quelques années, au moment du printemps des poètes, j'avais écrit à une dizaine de maisons de retraite, savoir s'ils étaient intéressés par une animation poésie, gratuite évidemment. Et seule la reine Béatrix m'a répondu. Alors, au début, j'essayais de leur faire écrire un peu, on lisait de la poésie, et puis plusieurs personnes sont décédées, et maintenant on a changé la formule. Il y a entre 15 de personnes qui viennent. On fait d'abord un moment sur la peinture, où je leur montre des peintres que j'aime bien. Ensuite, un moment de poésie, mais là je me contente de lire ou de leur faire lire des textes. Et puis, le troisième temps, c'est celui qu'elle préfère, évidemment. Je leur joue, de la main droite seulement, au piano, des refrains de chansons de leur époque pour qu'elles retrouvent à la fois le titre et éventuellement les paroles. Et ça se termine toujours par le petit vin blanc qui a beaucoup de succès et que tout le monde reprend en cœur.
Donc, vous faites cette animation tous les combien de temps ?
Une fois par mois.
Une fois par mois. Et auprès des enfants ?
Alors, auprès des enfants, ben, ça dépend des... Si les écoles me demandent, je réponds toujours oui.
Oui.
Là, pendant l'exposition à la médiathèque, il y a deux classes de l'école des sièges qui ont passé la matinée avec moi. Et ça a été passionnant. En plus, ça avait été très bien préparé par les instituteurs. Donc, ça a été passionnant, mais ce n'est pas à moi d'aller frapper à la porte des écoles. Je ne suis pas un commercial. Donc, je suis disponible, mais je reconnais que je ne sais pas me vendre comme d'autres savent faire.
Qu'est-ce que vous pensez des ateliers d'écriture? Est-ce que vous-même, vous avez participé à des ateliers d'écriture en tant qu'élève, si on peut dire?
J'ai jamais bien compris ce que c'était, mais j'ai dû en faire sans le savoir. Avec ces quatrièmes de Nancy, justement, on avait pris un thème, et puis il y avait 10 mots qu'il fallait arriver à placer, par exemple. Ou bien on avait fait des acrostiches. Donc, les ateliers d'écriture, ça peut être une façon de faire découvrir la poésie à des gens. Ce n'est en aucun cas une façon, une technique pour écrire un poème. Un poème, ça vient de l'intérieur.
Qu'est-ce que vous pensez des dictionnaires de rimes?
J'ai rien contre. Le Saint-Jean de Perse, qui avait un vocabulaire très, très riche et souvent un peu précieux, prétendait qu'il trouvait tout dans sa tête. Seulement, une de ses amies, Marthe Penot, est allée le voir un jour qu'il avait la grippe. Elle a trouvé un dictionnaire ouvert avec des notes sur les mots rares qu'il avait repêchés et un dictionnaire analogique. Donc, j'ai rien contre. Ce qui compte, c'est le résultat. Montaigne, dans les Essais, a cette très belle phrase, il dit « On est tous influencés, on est comme les abeilles, on butine sur plein de fleurs, mais après, on fait son propre miel. » Donc, c'est ça qui compte. Si ça peut aider à trouver le mot que l'on cherche et qu'on n'arrivait pas à trouver, c'est tout à fait légitime. Mais il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a un dictionnaire des rimes qu'on va faire... Avec un dictionnaire des rimes, on va écrire des vers. Mais ça ne veut pas dire qu'on fera de la poésie. C'est la différence.
Est-ce que vous avez des enfants?
Oui, j'en ai 2. Un qui a une situation importante à Montpellier et l'autre qui a travaillé, fabriqué des logiciels dans une boîte à Paris. Il est parti pendant une année en Asie du Sud-Est et là il est à nouveau reparti vers le Laos par là parce qu'il trouve que le mode de vie là-bas est plus intelligent. Et puis ma compagne a 2 enfants également.
Vous êtes venu avec beaucoup de livres et un gros classeur. Peut-être que vous avez envie de nous partager des choses. Vous aviez sélectionné des textes.
Ah ben, il y a de quoi tenir jusqu'à minuit. Hein.
Oui, on va se limiter alors.
Je vais vous lire un classique dans l'idée que en poésie, on peut tout dire. C'est le domaine du possible. Le texte que les enfants apprennent à l'école primaire de Robert Desnos. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin ou javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Voilà donc l'aspect de poésie. Si vous voulez un autre exemple de poésie, il fut un temps où je corrigeais pour une revue de Bordeaux un concours de poésie avec d'autres gens. Et on recevait toujours plein de poèmes. C'était « Il fallait prendre la serpillière », c'était « C'était mon grand amour »,« Je l'aimerai toujours », etc., etc. Et donc ça se limitait à ce que la personne avait ressenti. Or la poésie, pour être valable, elle doit tendre à l'universel, faire partager une émotion aux autres gens. Et quand, par exemple, Pelle-et-Loire écrit à une femme « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur », ça va beaucoup plus loin que de dire « C'était mon amour, je l'aimerai toujours ». Ou bien le poète que j'aime beaucoup, René Guy Cadou, qui a connu un très grand amour avec Hélène Cadou, au lieu de lui envoyer un SMS en lui disant « JTM », à l'époque, ça n'existait pas, c'était fort, fort bien comme ça. Il lui écrit dans Hélène ou Lorraine végétale, la 3e strophe, « Penche-toi à l'oreille un peu basse du trèfle. Avertis les chevaux que la terre est sauvée. Dis-leur que tout est bon, des ciguës et des ronces, qu'il a suffi de ton amour pour tout changer. » Ça va tout de même beaucoup plus loin. Et j'aime beaucoup aussi, comme en peinture, le 19e siècle. Et il y a des textes, des phrases très beaux. Je pense au début des Nuits de mai de Musset. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. de verre comme ça, ça vous transporte ailleurs.
On va écouter Dormeur du Val, le déserteur.
Ah, je mets la...
Et on se retrouve juste après pour faire le lien avec la peinture, puisqu'on n'en a pas encore parlé.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle sur son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement, il a froid. Des parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Alors cette chanson-là me touche d'autant plus, je vais vous faire une confidence. Alors, quand je suis parti en 59-60 en Suède, c'était parce que je ne voulais pas faire le service militaire, j'ai failli être insoumis. Et grâce à un professeur, mes parents, on a obtenu une prolongation de mon sursis qui m'a permis de faire le service militaire après la guerre d'Algérie. Donc cette chanson me touche particulièrement.
Mmh. Reggiani est aussi un interprète
Alors, je pense qu'il le dit avec ses tripes.
Ouais. Mmh. Ouais. Alors, on a parlé surtout de la poésie, mais la peinture a une place importante aussi dans votre vie.
Oui, j'ai été un des premiers, je crois, au lycée à Digne, à passer des diapositives sur la peinture, puis après des films en 16 mm sur la peinture. Et je suis loin de tout connaître, mais mes goûts, c'est le 19e siècle, en particulier de Turner, Delacroix, à la fin du 19e siècle, et début 20e, c'est l'expressionnisme germano-scandinave, représenté par le cri de Munch, par exemple. Et c'est à cette peinture-là que je suis le plus sensible.
Alors, est-ce que vous peignez depuis votre plus jeune âge aussi?
Donc, ça fait très longtemps.
Oui.
J'ai commencé à peindre en Suède. C'était vraiment une année très riche parce que là-bas, en Suède, l'hiver est long. Et on est en 1950-60. Hein, en France, celui qui faisait de la peinture à l'époque, c'était quelqu'un d'un peu marginal, d'un peu perdu. Alors que là-bas, c'était une activité normale l'hiver. C'est là que j'ai commencé à peindre. J'ai acheté ma première boîte de peinture. Et après, j'ai continué. Et j'ai eu rencontré, entre autres, grâce au docteur Damas, qui était un excellent peintre dignois, qui m'a donné des conseils, grâce à un professeur de dessin de Gassendi aussi, j'ai petit à petit progressé.
Est-ce que ça a une place aussi importante que la poésie ?
La poésie, on peut la faire en se promenant, trouver une idée, et le soir, quand on repense à ce qu'on a vu, on essaie de la transcrire pour la donner aux autres. La peinture, c'est un peu différent parce qu'il faut sortir le matériel, il faut le nettoyer après. Donc c'est une démarche différente. Et en ce moment, je suis en train d'essayer de refaire un tableau sur le Cousson qui a, semble-t-il, plu à l'exposition. Et tous les matins, avec le chien, je descends dans la Bléone pour voir le pont, le collège, le Cousson, les différents types d'éclairage. Donc c'est très différent comme démarche. Un poème, il pourrait être fait dans une journée. Un tableau, non. Mais les deux font sortir de l'univers du quotidien.
La création est très importante. Vous avez envie de faire passer ces messages, l'importance de la création aux jeunes que vous rencontrez?
Je pense que celui qui veut s'ouvrir à l'art, ça l'enrichit et ça lui fait prendre du recul sur beaucoup de choses. Oui.
Est-ce que des poèmes que vous avez écrits, vous auriez pu les mettre en peinture?
Non. Non. Le seul texte, il y a un poème sur le 11 septembre à New York et il y a un tableau dessus. Sinon, non, j'ai l'impression que les jours où j'ai beaucoup peint, j'ai pas envie d'écrire. Et le jour où j'ai fait un poème, ou commencé un poème qui me plaît, on a l'impression qu'il y a un influx nerveux qui s'est épuisé et j'ai pas envie à ce moment-là de peindre.
Vous avez des périodes.
Parce que je vous coupe. Oui. Mais il y a une chose que les gens qui n'ont pas essayé d'activité artistique ont du mal à comprendre, c'est que c'est un travail, et un travail qui procure, qui donne une grande satisfaction, mais aussi une fatigue, parce qu'il y a une concentration et une sorte d'influx nerveux qui s'épuise dans la création.
Quels sont vos projets pour les années à venir?
Pour les années à venir?
Oui.
Continuer à vivre, c'est pas mal.
C'est un beau projet.
Être capable de marcher le long de la Bléone en regardant les premières fleurs et en écoutant le bruit de l'eau. Et j'ai un petit peu l'impression que, aussi bien, surtout en poésie, d'avoir dit, non pas tout ce que je veux dire, mais d'avoir dit l'essentiel, c'est-à-dire les quatre domaines qu'on évoquait tout à l'heure. Et actuellement, quand j'écris, ça rentrera toujours dans un de ces quatre domaines. Donc, il y a peut-être le risque de se répéter, je ne sais pas. J'aimerais qu'un jour, peut-être, les poèmes que j'ai en stock, où il y en a que je pense beaux, soient publiés, mais ça, pour l'instant, je n'ai pas de projet précis. J'aurais aimé que la nouvelle communauté de communes souhaite que je refaire le livre Pays d'Inois, Terre de Poésie, en l'élargissant à la nouvelle communauté de communes. Moi, je suis disponible, mais encore une fois, je ne suis pas un mendiant.
Est-ce que vous avez le sentiment d'être un poète reconnu à Digne?
Quand on fait une activité artistique, on souhaite toujours être reconnu. Mmh. Et on regrette toujours de ne pas être plus reconnu.
Oui.
Il y a une trentaine de journalistes à Paris qui font les modes. Malheureusement, je n'en connais aucun des 30. Mmh. Donc, il y a plein de gens qui font des choses intéressantes, qui ne sont pas connus parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des relations. Prenez l'exemple. Saint-Jean-de-Perse qui a commencé à écrire à 17 ans, très belle chose, mais il a eu la chance de connaître Francis Jammes, qui l'a mis en relation avec Gide, qui était directeur de la NRF, et ça lui a mis le pied dans l'étrier. Or, moi je n'ai pas de ces relations qui permettraient de faire davantage connaître ce que j'ai fait. Sur Internet, le poème Katia Bengana, il avait été mis par le Printemps des Poètes. Est-ce que ça touche du monde? Je pense que dans les lycées, on devrait l'apprendre. Ça serait fort utile.
Oui. Est-ce que vous avez écrit donc 9 recueils?
Oui.
La maison d'édition, est-ce que c'est la même pour les 9?
Oui, c'est une forme d'association. Une maison qui avait été fondée par un type de Paris et repris par un poète et peintre que j'aimais beaucoup. Et une maison qui a fait un bon travail, mais la diffusion reste confidentielle. Donc c'est l'occasion à moi, grâce à des soirées poésie, par exemple, des sorties, de faire connaître.
Qu'est-ce que je voulais vous demander? Il nous reste plus que quelques
minutes. Il me reste encore 2000 pages à lire.
Voilà, il vous laisse 2000. Alors vous reviendrez certainement, Claude Braun. Je serais ravie que vous nous fassiez découvrir beaucoup plus de vos œuvres. On peut trouver vos livres à la ruelle?
On peut les trouver à la ruelle, à la maison de la presse, quoique j'ai un peu le regret qu'ils ne fassent pas un gros effort pour les mettre en évidence. Mmh. C'est pas parce qu'un livre est dans un rayon du fond, à moins que les gens viennent exprès et disent « je veux le livre de monsieur Attel », mais je regrette un peu qu'il n'y ait pas plus de dynamisme ou de mise en valeur par les libraires locaux.
Et si dans quelques années, on mettait une rue Claude Braun, hein, ça vous ferait plaisir?
Ah ben, j'irai m'y promener, oui. Avec mon chien.
Voilà.
Mais à ce moment-là, je préfère qu'on le fasse de bon vivant, pas attendre que je sois mort.
Voilà, donc il faut soumettre l'idée. Claude Braun, je vous remercie beaucoup. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir plusieurs heures d'émission comme ça pour en savoir plus sur l'homme et sur la poésie.
Sur la poésie, surtout.
Voilà, oui. Voilà. Mais la poésie vient de l'homme aussi, non?
Oui. Mais, alors ça, c'est un autre problème, le rapport entre l'homme et l'œuvre.
Oui.
Si on prend les deux auteurs que je connais un peu, Saint-Jean-de-Perse et René Char, on s'aperçoit qu'il y a un décalage entre l'homme et l'œuvre. On est déçu par l'homme. Alors que chez René Guicadou, il y a un accord entre l'homme et l'œuvre. Mmh. Alors ça, c'est un problème. Est-ce qu'il faut... Saint-Jean-de-Perse disait, l'œuvre, c'est comme un fruit, ça va vers le lecteur, mais ce qu'était l'arbre, ça n'a aucun intérêt.
Est-ce que vous vous sentez en accord avec ce que vous écrivez?
Je pense.
Oui.
Mais ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense.
Au revoir, Claude Braun, c'est déjà l'heure de se quitter. Au revoir.
Merci.